On prend des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette de retour de vacances. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, rédacteur en chef chez Francopresse. D'ailleurs, vous commencez avec une nouvelle tirée de Francopresse à propos de la Coupe du monde qui rassemble la francophonie.
Oui, à 2 jours de la grande finale, on est allé voir si les communautés francophones suivaient la Coupe du monde. Puis, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de groupes qui organisent des visionnements des matchs. À Sudbury, par exemple, il y a une association d'accueil des immigrants qui présente certains des matchs sur sur l'écran d'une salle de cinéma coopératif ici en ville. À Toronto, il y avait le groupe de diaspora française qui diffusait les matchs. J'ai dit diffusait parce que la France a été éliminée hier. Donc, diffusait les matchs. Match de l'équipe de France, puis en Colombie-Britannique, la société francophone de Victoria diffuse des matchs avec la description en français. Même chose à Winnipeg, au Manitoba, puis à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Même du côté du Yukon, au Caribou RV Park, au camping, il y a une salle du restaurant, puis on y diffuse des matchs, puis la salle se remplit. Ça crée un mélange parce que c'est des touristes et des résidents de Whitehorse qui se rendent pour voir les matchs. Donc, ça crée un achalandage record pour le restaurant et une ambiance particulière parce que à cause de ce mélange-là des gens qui sont là. Je crois que le soccer est de plus en plus populaire au Québec, là, mais c'est le cas également partout au pays. En Colombie-Britannique, dans l'article, on nous dit qu'en 2010, il y avait 60 000 personnes qui faisaient partie de diverses associations de soccer dans la province, en Colombie-Britannique. Ça incluait des joueurs et des entraîneurs. 15 ans plus tard, aujourd'hui, c'est rendu 150 000 personnes. Donc,
ça a plus que doublé. Hein?
Plus que doublé, ouais, exactement. Donc, tout ça est une bonne façon de rencontrer ces nouveaux voisins, entre guillemets, parce que les immigrants sont surtout en ce moment, sont plus ceux qui s'intéressent au soccer, au football, comme ils disent, quand ils arrivent ici. Donc, quand on veut les rencontrer, quand on veut voir ces nouvelles personnes qui arrivent dans notre communauté, c'est un bon endroit où les croiser.
Oui, vous nous donnez le goût d'aller camper au Caribou RV Park de Whitehorse au Yukon.
Je vous le conseille, c'est magnifique. Whitehorse.
Ah oui, vous connaissez, chanceux. Bon, alors on poursuit avec des entrepreneurs français qui réclament une liaison directe entre Moncton et Paris.
Il y a un sondage qui a été lancé sur une page Facebook de Français vivant à Moncton pour évaluer la pertinence d'une connexion de ce genre-là, une connexion aérienne. Il y aurait plusieurs avantages à l'avoir. Une des principales, c'est qu'en ce moment, les Français qui vivent en Atlantique, en Nouveau-Brunswick surtout, s'ils veulent retourner en France, doivent passer par Montréal ou Toronto pour la connexion. Donc, on s'en va vers l'ouest avant de repartir vers l'est. C'est pas l'idéal, puis ça rallonge les voyages et ça peut causer des problèmes quand il y a un des vols qui est en retard, surtout le premier. Donc, l'autre option aussi, c'est qu'il y a un vol saisonnier à faire à partir de Halifax, mais là, ça implique d'autres dépenses de se rendre à Halifax, de stationner la voiture, etc. Donc, en à peine 2 jours, il y avait déjà 800 réponses sur le sondage qui avait été lancé, puis bon, l'appui à une connexion de ce genre-là était de 98% dans le sondage. Bon, on pourrait s'y attendre, ce n'est pas un sondage scientifique aléatoire, là, c'est un sondage sur une page web, mais il y a quand même des données intéressantes là-dedans, parce que parmi les répondants, on dit aussi que l'objectif d'avoir cette connexion-là, ce ne serait pas seulement de se rendre à Paris, mais de se rendre à Paris pour ensuite aller ailleurs, soit dans d'autres pays européens ou dans des pays d'Afrique. Puis comme on sait qu'il y a beaucoup d'immigration africaine aussi dans cette région-là, il peut avoir un public intéressant pour ça. Il y a beaucoup de facteurs à considérer, donc ce serait aux aéroports et aux entreprises d'aviation d'évaluer si le volume serait assez important pour justifier la nouvelle connexion. Les organisateurs du sondage, eux, ont l'intention de présenter leurs résultats à des compagnies aériennes et au gouvernement du Nouveau-Brunswick, surtout pour tenter de lancer une première étude, une première vraie étude de marché.
Des franco-ontariennes invisibles mais essentielles, on en parle sur un site web qui s'intitule « On a le choix ».
Oui, on parle ici des femmes francophones qui vivent en milieu rural. L'Union culturelle des franco-ontariennes, qui est une association plus que centenaire, a voulu voir, avoir plus d'informations sur ces femmes-là, puis on s'est vite rendu compte qu'il y a très peu de données fiables. Il y en a un peu dans le recensement, mais ce n'était pas assez pour ce qu'elles voulaient savoir de leur contribution à leur communauté. Alors, Luc Faux s'est chargé d'aller chercher ces données-là, puis elles ont publié un livre blanc à la fin juin. Le titre du livre blanc, c'est « Elles existent, mais les voit-on vraiment? » Ce qu'a compris l'Union, c'est que les femmes francophones en milieu rural sont en moyenne plus âgées qu'en milieu urbain et elles jouent un rôle important dans la cohésion sociale de leur communauté et dans la transmission de la langue. Mais par contre, sont très peu représentées dans des postes de décision comme en politique municipale. Ce qui fait que si les décisions qui sont prises qui les concernent ne sont pas vraiment là pour donner leur avis. L'Union a lancé une étude, cette étude-là, après la perte du ministre de la Condition féminine au fédéral, quand Mark Carney a été élu, qui a nommé son nouveau cabinet, il n'y avait pas de ministre de la Condition féminine. Donc, l'organisme craint qu'on considère moins une perte de considération pour cette partie-là de la population francophone qui a encore un rôle important. Ce qu'elles aimeraient, c'est que le gouvernement de l'Ontario reconnaisse davantage le travail accompli par les femmes bénévoles, puis qu'il y a un soutien financier pour les initiatives communautaires qui intègre un indice de santé et qui intègre un indice de santé communautaire dans ses outils de planification.
C'est évident. Un soutien thérapeutique pour les jeunes à travers le jeu Donjons et Dragons.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est un jeu que vous aimez, Mathieu? Pas Mathieu. Mathieu, c'est mon metteur en onde qui est avec nous, qui est silencieux. Mais vous, très cher, parce que je sais que Mathieu est un fou des jeux en général, et vous?
Oui, j'ai ma partie de Donjons Dragons tous les mardis.
Ah oui?
Oui. Je joue avec mon fils d'ailleurs.
Ah! Bien, il va falloir que vous nous racontiez cette expérience-là un jour.
Un jour. mais là, ceux qui nous en parlent, c'est le journal La Liberté au Manitoba qui ont discuté avec deux thérapeutes qui utilisent ce jeu-là, Donjons et Dragons, comme outil thérapeutique pour les jeunes neuroatypiques ou qui ont des problèmes de comportement qui peuvent influencer leur relation sociale. Ils ont été inspirés par quelque chose qui existe déjà, c'est un concept qui s'appelle Game to Grow, qui utilise les jeux de société dans cet objectif-là, mais qui ont aussi des scénarios, des modules adaptés à Donjons Dragons, puis qui permettent de traiter des difficultés particulières chez les jeunes. Donc, en utilisant le jeu Donjons Dragons, ce qu'on encourage, c'est les interactions sociales, le travail d'équipe, la créativité et la résolution de problèmes. Les deux thérapeutes expliquent qu'ils ont vu des jeunes vraiment améliorer leurs relations sociales grâce à ce programme-là. Ça peut se traduire comme une plus grande facilité à sortir de chez eux, donc d'être moins isolé à la maison et d'interagir plus facilement avec d'autres personnes. Puis un des deux thérapeutes à qui ils ont parlé donne des séances en français à Winnipeg. Lui, ce qu'il a vu, c'est que le jeu permet aux jeunes de trouver leur voix à travers les personnages qu'ils interprètent en répondant à des situations fictives, puis sans faire face à des conséquences négatives véritables en se trompant ou en ayant la mauvaise réponse à une interaction. Donc, ça fait une certaine pratique pour ensuite pouvoir interagir en société.
Mm-hmm. Vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Oui, je pense que c'est le jeu permet ça de parce qu'on parle, on fait parler nos personnages, puis on improvise dans des situations, puis on essaye de trouver des solutions. Le but du jeu, oui, il y a du combat, mais ce n'est pas toujours l'objectif. Des fois, on essaye de l'éviter.
La hausse de la chasse aux caribous ne fait pas consensus au Nunavut.
C'est un sujet qui découle d'une bonne nouvelle quand même, parce que le troupeau de caribous de l'île de Baffin, qui est la plus grande île du Nunavut, là où se trouve la capitale Iqaluit. Ce troupeau-là est passé de 4 600 animaux en 2014 à 48 000 en 2024. Donc, c'est une hausse assez remarquable. Puis, d'après les chercheurs spécialisés dans l'observation de troupeaux de caribous, c'est extraordinaire, mais on est encore loin du 150 000 caribous qu'il y avait dans les années 80 sur l'île. Bon, malgré ça, la hausse a conduit le ministère de l'Environnement du Nunavut à recommander de faire passer le quota annuel de chasse de 550 à 6600 sur l'île de Baffin. Du côté des chercheurs, on est sceptique pour cette hausse-là. Oui, le troupeau est en bonne santé, mais il est peut-être trop tôt pour déterminer la véritable trajectoire démographique du troupeau. On ne sait pas s'il y a eu quelque chose qui les a favorisés, qui est temporaire, ou si la croissance va continuer. Donc, il suggère plutôt une hausse plus modeste au début, mais graduelle. Pour les Inuits, le caribou, c'est un élément traditionnel de leur alimentation et de leur mode de vie. Puis les quotas de chasse qui ont été imposés ont vraiment affecté leur mode de vie. Il y a un intervenant dans l'article qui explique que pour 30 $, il peut mettre de l'essence dans sa motoneige, partir à la chasse, puis ramener un caribou qui va pouvoir nourrir une petite famille pendant quelques semaines, alors que pour le même 30 $ en ce moment, il va aller à l'épicerie puis il va pouvoir s'acheter un seul steak. Donc, une hausse du quota de chasse aura un impact sur l'alimentation de la communauté Inuit. Au moment où le Nunavut a publié l'article, le gouvernement n'avait pas encore pris sa décision. Là, on était encore en consultation.
Merci beaucoup, cher Julien. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.